Voilà, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous irez vraiment, vraiment super bien en sortant de ce culte. En tout cas, je suis content de vous voir. Voilà. On a prié. Eh bien, je ne vais pas prier. Seigneur voit les cœurs. Mais je vais directement commencer donc la prédication. D'accord, ça va? Alors, une chose n'est pas courante, je vais dire comme ça, c'est un truc un peu bizarre, je vous explique, c'est toujours un peu, j'aime bien parfois d'expliquer les circonstances, quand il y a des circonstances particulières, et ici, je vais parler, comment dire donc, on est en train de parler, parce que je ne serai pas le premier à parler de ça, du travail dans l'Église, des ministères, des services, de toutes ces choses, on a parlé de beaucoup de choses, de l'unité, etc., etc. Donc voilà, et je voudrais rebondir là-dessus, parce que finalement, le pasteur Jacques Lemaire, qui est venu la semaine passée, il a parlé un petit peu de ça, et Jérémia aussi, il y a deux semaines, c'est ça, il y a deux semaines, je crois, oui, a parlé aussi de ça. Alors il y a un truc, c'est pour ça que je voudrais, parce que c'est l'anecdote, en fait, c'est un peu marrant, mais... Jérémia me dit, je sais plus quand, cette semaine, il me dit, tu sais quoi, je trouve que tu devrais reprendre des points de ma prédication et approfondir et revenir là-dessus, ce qui est bizarre, parce que c'est pas ce qu'on fait en général, il me dit ça comme ça, je dis, mais ça alors, c'est vraiment bizarre que tu me dises ça, je dis, parce que j'ai vraiment pensé tout à fait la même chose, depuis les années que je prêche, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais pensé à ça. Et je dis oui, effectivement, j'ai vraiment pensé à ça, parce que les prédications, donc les messages qui ont été donnés, c'est aussi des choses que j'avais à cœur, évidemment différemment, etc. Et puis j'ai pensé exactement la même chose. Je dis, il faut redire des choses parce que c'est trop facile. Vous savez, parfois on répète les mêmes choses. Je sais bien que dans les églises, des fois on répète les mêmes choses. Mais vous savez, c'est ça la prédication, hein. C'est Dieu parle, et vous savez que Dieu parle au travers des prédications. C'est dommage que les gens ne le savent pas. Parce que si, je vais parler pour moi, pas pour les autres, mais si ma prédication n'a aucune dimension prophétique, autant que vous changez de pasteur ou de prédicateur. Le problème, c'est que les gens ne voient pas ça. Alors c'est comme Jacques l'a dit, alors je ne pensais pas dire ça, mais je le dis quand même. C'est triste, c'est dommage. Parce que Jacques l'a dit, si un prophète vient, si Christophe vient, il veut dire, dis-moi quelque chose, qu'il ait quelque chose pour moi. Mais il y a quelque chose pour toi tous les dimanches. Et je ne vais pas ici faire, je ne vais pas vous dire quelque chose qui est de la vantardise, mais je vais parler pour moi, je ne suis pas le seul. Quand je prêche, sachez que Dieu parle. Parce qu'il me donne des choses qu'il y a à dire pour l'Église. Et ce n'est pas de la vantardise. Et si vous saviez, si vous saviez à quel point je m'estime misérable et pas digne de Dieu, vous sauriez que ce n'est pas de l'orgueil ce que je dis. Ce n'est pas du tout de l'orgueil. C'est que je veux qu'il y ait une prise de conscience dans l'Église. Mais venez écouter ce que Dieu a à vous dire. Ce n'est pas un prophète seulement. Un prophète, il fait un travail spécifique. Il a des petites paroles d'encouragement, enfin des petites ou des grandes, mais parfois des petites, c'est des paroles d'encouragement. Parfois j'ai même envie de dire, c'est tout petit. C'est juste que ça, waouh, vous êtes content parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Parce que, comment est-ce qu'il savait? Ben oui, Dieu est là. Et Dieu n'est pas là maintenant peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? On s'attache à des fois on s'attache à des choses qui sont anecdotiques. Je ne suis pas en train de diminuer le don de quelqu'un, ce n'est pas ça que je fais, les ministères dans l'Église, les dons, etc. Non, ce n'est pas ça du tout. Dieu parle. Amen. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas exactement vraiment reprendre les points de Jérémia, ce n'est pas ça, mais pourtant j'ai lu ce qu'il avait dit, etc. Je veux pas, parce qu'évidemment, on fonctionne différemment, alors moi j'ai lu des points différents, etc. Et pourtant, je vais rebondir là-dessus. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un texte, je vais commencer par ça. Et sachez que ce qui m'intéresse, c'est de parler, comme je vous l'ai dit, des services dans l'Église, des ministères, du travail qu'on fait dans l'Église, de la place qu'on peut prendre, etc., etc. Et j'aimerais enseigner là-dessus. Alors c'est peut-être moins gai que que de prêcher sur la sainteté de Dieu et puis prier et puis sentir sa présence, parce que mais il faut des choses comme ça aussi, il faut un enseignement aussi, on va continuer là-dessus, d'accord, et on va le faire. Et donc je voudrais vous, avant de vous dire le titre de ma prédication, je vais vous lire un texte qui est dans Matthieu 20 à partir du verset 20 et jusqu'au verset 28 et qui est une histoire qu'on connaît, d'accord, ça va, qui est une histoire qu'on connaît. La femme de Zébédée, mère de Jacques et de Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils. Donc, vous voyez l'image, elle s'approche de Dieu avec ses fils. C'est pas ça, évidemment. D'accord, donc la mère de Jacques et de Jean, elle s'approche avec eux, et elle se prosterne devant Jésus pour lui demander une faveur. Vous voyez, jusque-là, c'est bien, hein? Il n'y a rien de mal, elle fait le truc, elle se prosterne, on voit qu'elle est sainte. Hein. On fait ça parfois aussi, on s'approche de Dieu. Essayez de trouver des parallèles à votre vie, on s'approche de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi ça et tout ça. Donne-moi ça, utilise-moi, voyez, place-moi. Et elle s'approche donc de Jésus, elle lui demande une faveur. Et puis Jésus dit, que désires-tu, lui demanda-t-il. Elle lui répondit, voici mes deux fils, promets-moi de faire régner l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Pas culotté, elle. Hein? Bon. Jésus leur répondit, mais nous, on est culottés aussi, hein, des fois. Et ça me rappelle ce que Jérémie a dit, justement, quand il a fait cette belle image. Pourtant, on parle souvent du corps du Christ, etc., et on en reparlera sûrement. Hein? Alors, là, je veux être la tête, je veux être la tête. Vous avez vu l'image qu'il a fait, tout ça, puis avec Jean, là, on prend toujours Jean. Et puis, finalement, le corps, il ne sait plus rien faire, quoi. Il ne sait même plus boire. Il doit laper, peut-être. D'accord. Et donc, elle dit ceci, à ma gauche, à ma droite. Et Jésus leur répondit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Puis voilà un petit peu l'histoire. Hein. Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. Alors Jésus reprit, elle dit, vous boirez en effet, mais eux ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire, vous boirez en effet ma coupe. Mais quand assiégez à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. Voilà. Alors, c'est la même chose. Alors, ça, c'est pour plus tard. C'est dans le règne éternel, on va dire ça comme ça. Mais sachez que c'est pour maintenant aussi. Sachez que c'est le Saint-Esprit qui distribue les places, les rôles, etc., etc. Voilà. Même s'il y a... Enfin bon, voilà, oui, c'est lui qui le fait, soit, je ne fais pas de parenthèse. En entendant cela, les 10 s'indignèrent. Ah bah ouais, évidemment, hein, ça provoque l'indignation, quoi. Hein. Imaginez, hein, imaginez une situation bon, je ne suis pas Jésus, évidemment, mais imaginez que devant tout le monde, quelqu'un vient nous demander, est-ce que tu peux me mettre là, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux me placer là, qu'on me voit bien, quoi. Hein. Parce que c'est ça, en fait, qu'on me voit bien. Hein. Ah ouais, que je règne avec toi. Et donc, les autres s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur les peuples, sur leurs peuples, et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. » Vous savez bien que ça se passe comme ça. Et vous savez bien que ça se passe toujours comme ça maintenant. Eh bien, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Là, j'ai mis ça bien en gras sur mon texte, et vous pouvez le souligner dans votre Bible. Si quelqu'un veut être grand dans l'Église, qu'il soit le serviteur. Ça tombe bien, hein, parce qu'on a parlé, tout ça, et je veux dire un peu, même parce qu'on a une fête, alors on a travaillé, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait ça. Je prêche ça, parce que c'est maintenant que je dois prêcher ça. Alors, si ça coïncide... Dieu sait, mais moi en tout cas, c'est pas, je vous ai dit les circonstances de la préparation de ma prédication. Quand je prêche, je ne vise personne. Ou je vise tout le monde, ou bien soit, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et puis ensuite, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Voilà. Ah ben, vous pouvez souligner aussi. Si quelqu'un veut être le premier... Celui qui sait tout, qui dirige tout, qui... Je ne sais pas quoi, non, enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner même sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà, Ah, amen. Vous dites amen, hein? Mais dites-le, vraiment, amen. Jésus, il n'est pas venu pour autre chose. Lui-même, Jésus-Christ, Dieu, est descendu de sa gloire pour servir, et même pire que ça, pour donner sa rançon. Et puis nous, on est religieux, là, on est content. Oh, merci Seigneur, tu as été crucifié, etc. Mais ce n'est pas que ça, hein? Il s'est humilié, comme vraiment il s'est rendu esclave. Cloué sur la croix, sort réservé à la racaille à ce moment-là. Comprenez ce que je veux dire. Jésus était Dieu. Je ne suis pas en train de dire que Jésus, racaille, je n'associe pas les deux mots. Mais c'était le sort réservé à la, pour les Romains en tout cas. Un Romain n'était pas crucifié. Et voilà ce que Jésus est venu faire. Pour donner un exemple également. Voilà. Sachez que ce que je prêche, hein, parce que maintenant, il y a des choses parfois qui sont difficiles à dire quand on est pasteur, parce que c'est facile à dire, moi je suis pasteur, enfin pour certaines choses en tout cas. Et puis, je me rends compte que des fois, parce que ce n'est pas dans mon naturel, mais je commence à réaliser que parfois, bien sûr, je recommence ma phrase. Je commence à réaliser, enfin je commence, ça fait un moment quand même, que, et je le sais, qu'en tant que pasteur, j'ai reçu une autorité de Dieu. Ce n'est pas dans mon naturel. Ce n'est pas que j'aime bien, mais je l'ai reçue. Et je me rends compte de plus en plus que parfois, je dois l'exercer. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que si j'ai reçu cette autorité, qui n'est pas de l'autoritarisme, hein, d'accord ? Ce n'est pas ça. Hein, c'est une autorité spirituelle, ça n'a rien à voir. Bon, soit. On n'a pas le temps d'expliquer tout ça maintenant. Sachez que ce que je lis maintenant et ce que je prêche maintenant, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je me suis rendu serviteur dans l'Église. Je me suis soumis parfois à des personnes à qui il était très difficile de se soumettre. J'ai fait des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord sans rouspéter. On m'a pris des fois, certainement, à mon avis, on l'a pas dit, pour un lèche-botte. Ou un frotte-manche. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait quand on s'humilie et quand on est soumis dans l'Église. Ce n'est pas avec cette mentalité de lèche-botte, parce que le lèche-botte, hein, vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est juste parce qu'il a envie d'avoir une place. Mais ce n'est pas dans cet esprit-là, évidemment, je vous dis, ce n'est pas dans cet esprit-là que je l'ai fait. Ce n'est pas dans cet esprit-là qu'il faut le faire. Mais je vous dis ça parce qu'il faut parfois dire ce que je prêche, je l'ai fait. Et je me rappelle un jour le pasteur Monica qui m'avait dit à un moment donné, quand il n'était déjà plus là, mais je n'étais pas encore le pasteur, il m'a dit, fais attention, la manière dont tu te soumettras, bien, ton ministère futur dépend de la manière dont tu te soumettras. Et quand il a dit ça, bien, Dieu me l'avait tellement déjà montré que je me suis dit, mais pff, tu prêches à un converti, hein, je le sais, d'accord, ça va ? Je dis ça parce que c'est la réalité, c'est tout, je dis sans orgueil, ça va ? Donc voilà, c'est très important. D'ailleurs, j'ai toujours eu à cœur, je vais pas prêcher là-dessus aujourd'hui, mais j'ai toujours eu à cœur David. Punaise, le comportement de David. Qui avait été consacré roi, c'est lui qui était roi. Saül, Dieu l'avait dit, mais Saül, je l'ai rejeté. Qu'est-ce qu'il a fallu attendre ? Et ça, il faudra en parler. Qu'est-ce qu'il a fallu attendre ? Et David n'a jamais rien fait, il a toujours honoré même Saül, parce que c'est celui que Dieu avait. Ouais, vous voyez quelle crainte de Dieu il avait. Bon, soit, voilà. Alors, ceci étant dit, je parle des ministères et des services dans l'Église. Le titre de ma prédication, il est bizarre, mais vous le retiendrez comme ça, enfin je l'espère. Vous savez ce que c'est un nain. Bon, je respecte tout le monde, mais je vais le dire comme ça, il y a des gens petits, il y a des gens grands, il y a des nains, il y a des géants, un nain. Vous savez ce que c'est un clocher, une église. C'est très haut, c'est la partie la plus haute. Eh bien, le titre de ma prédication est celui-ci, et de toutes celles qui vont suivre. Même au sommet d'un clocher, un nain reste un nain. Voilà. Comme ça, au moins, vous retiendrez. Je sais bien que c'est peut-être un peu rigolo, mais c'est le titre de ma prédication. Même au sommet d'un clocher, un nain reste un nain. Voilà. Et alors, vous trouverez vous-même les allusions et les petites choses, peut-être les parallèles avec ce que je dis. Et on reviendra là-dessus. Et je vais vous raconter alors une histoire, une autre histoire. Celle-ci, elle est de la Bible, mais je vais raconter une autre histoire. Il était une fois un nain. Vous me suivez ? Ouais, je voudrais les enfants aussi. Il était une fois un nain. Ce n'était pas un schtroumpf, hein ? Bon, c'était un nain. Il vivait dans un village paisible. Ça veut dire que ce village-là, dans ce village-là, il y avait la paix. C'est ça, un visage. Il vivait dans un village, dans une famille où il y avait la paix. Il avait une famille, des enfants, de même, paisible, super, qui l'honorait. Il était doué dans son métier, évidemment, c'est un forgeron, on le sait bien, les nains sont des forgerons, hein, d'accord ? Et il était aimé de tous, parce que c'est un village paisible, il était aimé de tous. Tout allait bien, mais rien n'y faisait. Il était tellement complexé par sa taille que sa seule préoccupation était d'accomplir un exploit. Faites vous-même des parallèles avec l'Église et avec vos vies. Gravir le sommet de cette montagne-là, au loin, gravir le sommet de cette montagne-là que personne n'avait jamais atteint. Et donc, obsédé par son complexe, obsédé par son ambition, il prépara cette expédition et il partit. Il marcha pendant des années. Ah oui, parce que ce n'était pas n'importe quoi comme expédition. Et un jour, il arriva enfin au sommet, fier de ce qu'il avait accompli. Il arriva donc au sommet. J'ai mis entre parenthèses de sa gloire, point d'interrogation peut-être pour lui, ou peut-être le pensait-il. Tout heureux de son exploit, il s'empressa de faire le chemin en sens inverse. Et un jour, bien des années donc après, il arriva de retour au village. Alors vous dites, ça prend des années, ben évidemment. Et vous n'imaginez pas une montagne, certaines montagnes, et waouh, et des petites jambes, et des rochers abrupts, et puis la neige, et puis ça glisse, et organisé, et le ravitaillement, etc., les temps de repos, bref. De retour au village, pressé de raconter son aventure, il n'y trouva personne pour s'y intéresser. Non, parce que ses propres enfants étaient déjà mariés pour la plupart, partis, attirés peut-être par la ville, par autre chose. Ils ne les avaient pas vus grandir, ils n'étaient pas là pour leur mariage, ils n'étaient pas là pour voir les années de sa, je veux dire, passées dans sa famille, sa femme, etc., etc. Son travail avait été repris par un autre, il fallait bien un forgeron, donc il n'avait plus son travail. Et une génération avait passé. Les gens avaient vieilli, les enfants grandi, et ils avaient bien d'autres préoccupations que cette histoire de sommet de montagne gravi par le nain. Moralité, je répète ce que j'ai dit, même au sommet, ici, au début je pensais à ça, c'était cette phrase que j'avais en tête, mais j'ai choisi le clocher, vous comprendrez pourquoi, mais moralité, même au sommet d'une montagne, un nain reste un nain. Même au sommet d'un clocher, et c'est, nous n'avons pas de clocher ici, mais vous pouvez faire faire ce rapprochement-là, cette imagé, même au sommet du clocher, un nain reste un nain. Amen. Ok. Parce que amen, c'est pas très spirituel. Oui. C'est inhabituel, ça. Bien sûr, c'était compris dans mon histoire. si on veut, oui. Évidemment, on peut comprendre beaucoup de choses. Son travail n'a pas été fait. Et quand il est rentré, évidemment, c'était fait par un autre. C'est sûr. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, non, ce n'est pas grave. Et donc, je voudrais parler de ceci. L'aptitude à servir. D'accord ? Et donc, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais je vais répéter certaines choses qu'on a déjà dit. L'aptitude à servir, mon aptitude à servir, ton aptitude à servir. C'est quoi ton aptitude à servir ? Eh bien, ce ne sont pas tes dons. Non. Oui, c'est important les dons, mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Ce ne sont pas tes dons. Ce ne sont pas tes qualifications. Je ne parle même pas de ton efficacité, je veux dire... Je vais parler de... On peut être efficace, c'est-à-dire qu'on sait faire quelque chose. Difficile de prendre un exemple. Je ne vais pas en prendre parce que, justement, alors qu'on vient d'avoir un événement et tout ça, on pourrait faire des parallèles que je ne veux pas faire. Je pense à rien ni personne, mais vous voyez, il y a des gens qui sont efficaces là-dedans. Et ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. On peut être efficace. On peut être doué. On peut être rempli d'énergie. Le pasteur Jacques Lemaire nous a parlé la semaine dernière... de ceci. Il faut le rappeler, je suis désolé, je dois le rappeler, parce que on a dit ce truc-là, puis on passe au truc suivant. Moi, mon rôle, je suis pasteur. Donc, je suis pasteur, ça veut dire que, avec, évidemment, entouré d'autres, hein, bon, soit, c'est pas, j'ai la responsabilité d'une église. Et ce passage de Romains 12:1 que Jacques Lemaire a lu dit ceci. Tu peux l'afficher de nouveau si tu veux, on l'a lu la semaine passée. Mais je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça, ce que Jacques a dit la semaine passée, c'est de cela dont on a besoin. On n'a pas besoin de gens doués, qualifiés dans l'Église. Vous allez me dire si, oui, d'accord, c'est pas ça, c'est pas de ça que je parle. Il y en a toujours. Et puis Dieu, de toute façon, il qualifie. Et vous allez même voir que parfois des gens qui ne sont pas doués du tout pour un truc, une fois que Dieu les appelle, je vous assure qu'il va les, il va les, il va les douer, puisque c'est Dieu qui donne. Bon, soit. Ce que Dieu veut, Jacques en a parlé la semaine passée, c'est des gens qui ont compris que le sacrifice que Dieu vous demande en tant que prêtre que vous êtes tous, si vous êtes nés de nouveau, c'est d'offrir vos vies, vos personnes, comme il a dit, parce que c'est ça, hein, vos corps, c'est vos vies. Je pense que je l'avais déjà dit d'ailleurs, enfin, il me semble, enfin, soit, moi je n'avais pas dit vos personnes, mais c'est vos vies entières à Dieu comme un sacrifice qui sera considéré comme raisonnable, comme acceptable. Il n'y a que ce sacrifice-là qui est acceptable. Il a expliqué ensuite, après, que, évidemment, quand on est conscient que notre vie, parce que moi je le dis comme ça, il n'a pas dit comme ça, mais quand on est conscient, et quand tu es conscient que ta vie ne t'appartient plus, et que tu l'offres à Dieu, entièrement, après, quand tu viens, c'est facile de louer, parce que toute la semaine, tu as vécu pour Dieu, et tu t'es dit, oh, je fais tout à cause de Christ. Alors quand tu viens, tu le loues. Et ça, c'est le deuxième sacrifice dont il a parlé. Et puis après, il a parlé des sacrifices des biens, hein, dans la communion fraternelle aussi. Et puis il a parlé des sacrifices aussi, les âmes qu'on amène à Dieu, où sont-elles? Ce sont aussi nos sacrifices, des sacrifices devant Dieu. C'est ça notre boulot. Alors, notre aptitude à servir, elle est là. Si je ne me retrouve pas là-dedans, il faut revoir ma copie. Ah oui, il faut revoir sa copie. Parce que servir, en n'ayant pas compris ça, et évidemment on n'est pas parfait, je le sais bien, ce n'est pas ça que je veux dire, on est distrait parfois, la tiédeur nous visite, mais c'est ça que Dieu veut, offrir nos corps, nos vies, comme un sacrifice raisonnable. Et quand il a parlé des biens aussi, excusez-moi de parler de ça, parce que ce truc-là, et on en reparlera, je voudrais, on mettra même les pieds dans le plat, l'argent. Je vous encourage, j'ai fait des feuilles, j'ai travaillé là-dessus. on les a lus ensemble, etc., des feuilles pour les ministères dans l'Église, pour servir, etc., les conditions, les choses, etc. Vous les avez reçues, on a fait une réunion. J'aimerais bien que vous les relisiez, parce que je n'ai pas fait ça pour du vent. J'aimerais bien que vous les relisiez. Si vous ne les avez pas eues, j'aimerais bien que vous les demandiez, parce que je me suis aperçu que j'en avais encore. D'accord ? Alors, l'argent, parlons-en. Mais oui, comment est-ce que moi je vais servir ? Je vais venir là, je vais m'amener quelque part, je vais dire, oh, moi aussi, je vais faire ça, je vais servir, je vais... Parce que c'est un honneur, hein, de servir Dieu. C'est participer à sa gloire, hein. Ah oui, et comment moi je vais être glorifié par Dieu, je vais servir comme un autre qui lui a compris et qui donne sa vie. Et comme il donne sa vie, il donne sa dîme aussi. Vous voyez ? Parce qu'il veut, parce que, mais évidemment, c'est, comment ne pas comprendre ça ? Comment il y en a qui respectent dans les églises parce qu'on parle de l'argent ? Quand tu aimes Dieu, quand tu sais qu'il t'a racheté à un grand prix, quand tu sais que ta vie ne t'appartient pas, et quand tu commences à maugréer, parce qu'on doit payer, on doit payer pour un repas, et ceci et cela, hein. Je dis, mais bon sang, mais ton argent ne t'appartient pas. Oh, c'est moi qui travaille, c'est Dieu qui t'a donné ton travail, etc., etc. Je ne suis pas là pour parler de ce sujet-là, mais j'approuve des décisions de certaines églises, c'est parce qu'ici nous sommes comme nous sommes, et nous fonctionnons d'une manière, mais je sais que notre ancien pasteur, le pasteur Onia, donc, maintenant, à Bruxelles, tous ceux qui servent dans un ministère, alors je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, ce n'est pas ça, ils doivent s'engager, et ils sont, ça a été loin, enfin loin, je veux dire, ils sont engagés à donner leur dîme. Voilà. Alors, oh, certains diront, mais ça devient sectaire, ça. Non, ça ne devient pas sectaire. Ça devient sectaire quand on contrôle, ça devient sectaire quand on force, ça devient sectaire quand on exerce des pressions malsaines, etc. Quand ça, voilà. Personne n'est obligé, après tout, vous imaginez, t'es pas obligé de travailler, hein, tu le fais gratuitement en plus. Mais c'est censé de faire ça. C'est très censé de faire ça. Parce que comment Jésus va mettre quelqu'un à sa gauche et quelqu'un à sa droite, alors qu'il ne s'est même pas sacrifié, faire le moindre sacrifice, le petit sacrifice que Dieu lui demande de faire. Et tu demandes d'être à la droite et à la gauche de Dieu, ben non. Vous voyez ? Non. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est la Bible, ce n'est pas moi. Et moi, je suis là pour dire tout ce que la Bible dit et ne rien laisser de côté. C'est comme ça. Amen ? Il y en a moins déjà. Bon, je ne vous force pas à dire amen, hein. L'aptitude, si tu es apte à servir, sache que l'aptitude, elle ne vient pas de tes qualifications. Ça va ? Elle vient du cœur. Un cœur pour servir. Et Jésus, il a été cet exemple, il a dit, il est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Et même, je voulais lire le passage, mais ça prend trop de temps encore. Il a même lavé les pieds de ses disciples et il a dit, voilà ce que vous devez faire. Mais on dirait qu'on n'a pas compris ça. Parfois, dans les églises, on dirait qu'on n'a pas compris ça. Quand on se met en marche, alors je ne sais pas, moi, vous savez, j'ai pas été très, j'ai beaucoup délégué quand c'est la fête de Noël, voilà, ici, parce que, à cause de mon travail, etc. Donc moi, j'ai vu beaucoup de choses qui allaient bien, et puis il y a toujours des petites choses qui ne vont pas, etc. Mais je prends ça comme exemple, comme c'est proche de nous, puisque c'est avant-hier. On dirait que parfois, j'ai rien vu, hein, j'ai pas vu grand-chose, mais je sais que c'est comme ça souvent. On dirait que parfois, une fois que on met en pratique, eh bien justement, on ne met pas en pratique. On oublie. On dirait qu'une fois que la machine se met en route, on oublie tout ça. Hé, les gars, vous êtes chrétiens, vous êtes nés de nouveau, sanctifiés, serviteurs, n'avez pas des pieds à laver. Il y en a, hein. Deux par personne. On dirait qu'on oublie. Alors, j'aimerais Donc, parler, je ne vais pas évidemment pouvoir dire tout ce que voilà, le culte a été dirigé, et merci Seigneur, on a passé de bons moments dans la présence de Dieu, mais d'une manière un peu différente et inattendue. Mais j'aimerais parler des motivations. Alors j'aimerais quand même le faire un petit peu. C'est ça, c'est de ça dont je voulais vous parler, mais il fallait que je vous rappelle ces choses-là. J'aimerais vous parler des motivations. Et j'aimerais, Fabienne, que tu affiches le proverbe. Je pense que c'est la version Summer que j'ai choisie, je ne l'ai pas notée, je ne suis pas sûr. Proverbe, j'aime bien, comme c'est dit, mais la signification est la même de toute façon. Proverbe 21, chapitre 21, verset 2. Et ce proverbe dit ceci. Un homme, on pourrait dire, un homme c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Ça veut dire que l'homme, l'humain, un homme peut croire que tout ce qu'il fait est juste. Et donc ce verset dit, un homme croit, donc Proverbe 21, 2. 21, 2. Bon, l'homme estime toujours que sa voix est la bonne. Donc ça ne doit pas être la semeur, peut-être. Ah là, c'est second. Moi, c'est la semeur que j'ai pris. Moi, c'est dit différemment. Un homme estime ou croit que tout ce qu'il fait est juste. Mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. OK ? C'est l'Éternel, c'est Dieu qui apprécie les motivations. Quand tu fais quelque chose, tu crois peut-être que c'est juste, mais c'est l'Éternel qui pèse les motivations. Il sait pourquoi tu le fais. Toi, tu ne le sais peut-être pas.
Ah oui, parce que certains ne se posent pas la question. C'est ça qui est dommage. Et quand on se pose la question, c'est parfois pas facile d'y répondre. C'est parfois pas facile d'y répondre. Moi, j'ai dit souvent à Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur. Je vais un peu mourir devant vous. Des fois, j'espère que je vais pouvoir expliquer ça, mais ça me rappelle quelque chose. Il faut que je le matérialise ou quoi. Des fois, je prie et je dis, Seigneur, mon Dieu, regarde, je ne suis pas digne de toi. Parce que dans le fond, regarde, je fais ça même. Pourquoi je l'ai fait? Alors, je réfléchis. Seigneur, je crois que, ouais, je le fais quand même pour toi. Et puis alors, ouais, voyez, je laisse Dieu sonder mon cœur. Et puis, mais tout le monde n'est pas comme ça. Hein, tout le monde n'a pas. J'ai remarqué que parfois des gens ont très peu d'introspection. Et quand, alors, si je fais cette parenthèse-là, c'est parce que je sais que si j'ouvre mon cœur, certains vont dire, lui, il est tordu, ou lui, il exagère, ou lui, il est comme ça. Mais ceux qui ne le voient pas, c'est pas parce qu'ils ne sont pas comme ça tordus. Parce qu'on est tous tordus, je vais le dire, seulement certains ne le voient pas. Mais on est tous comme ça. Et alors que je suis en train d'avouer à Dieu mes fautes, et de dire, Seigneur, je ne suis pas si bon que ça, eh bien tout d'un coup je me dis, mais je suis content parce que, étant donné que je suis vrai devant toi, je me dis, tu dois apprécier. Vous voyez le truc? Puis je dis, Seigneur, mon cœur est vraiment tortueux. Parce que je veux être droit devant Dieu. Et je peux même me dire, moi je vais tout avouer à Dieu, ça il va être content de moi. Donc, ma motivation, encore une fois, n'est pas 100% bonne. Vous voyez comme le cœur est tortueux. Et alors le voir, c'est important. Et aujourd'hui, c'est de ça dont je voudrais vous parler. Si tu crois que tu n'es pas comme ça, je voudrais te prouver que tu es comme ça. Parce qu'on est tous comme ça. Ou alors tu ne crois pas la Bible, tu la crois. Un jour, je me rappelle, j'avais dit à un chrétien qui était, mais ça fait des années qu'il n'est plus ici, et j'avais parlé de l'orgueil. Et j'avais dit, mais c'est vrai que... Et j'avais parlé de ma propre expérience. On doit sentir qu'on est orgueilleux, tous. Et lui, bon, effectivement, ce n'était pas quelqu'un spécialement orgueilleux. Mais il m'avait simplement répondu, moi pas. Bon, et c'est vrai que ce n'était pas spécialement quelqu'un d'orgueilleux. Mais je me suis dit, ah bon sang là. Donc j'ai eu cette impression de m'être mis à nu devant quelqu'un et puis d'être comme une cible, quoi, parce que lui ne se sentait pas du tout concerné. Il n'avait juste pas vu. Il n'avait juste pas compris que lui aussi était un orgueilleux. D'accord ? Bon, alors, je voudrais aujourd'hui que vous puissiez réaliser contre qui vous avez à vous battre et qui est votre ennemi. Comment il est ? Qui il est ? Et que vous sachiez le connaître et le reconnaître. Et vous savez qui il est, cet ennemi ? Vous savez qui c'est, cet ennemi ? Non ? Vous savez pas ? Ah ouais, vous avez compris. Je suis content parce que vous avez compris. Sérieux, vous avez compris. C'est vous-même. Vous-même, dans le sens, ce qu'on appelle dans la Bible le vieil homme, l'ancienne nature. C'est ton ennemi. Et on ne le connaît pas assez. On ne le connaît pas assez. Et aujourd'hui, je voudrais, ô Saint-Esprit, que tu révèles à chacun qui est son vieil homme, sa vieille femme. Sa vieille femme, ça fait une sorcière quand on dit ça. Voilà. Oh, c'est dommage, j'ai oublié. Je pensais afficher un texte et puis voilà. Ben, elle demandait qu'on l'écrive avant, tant pis, elle projetait. Alors vous allez juste être attentifs, parce que je vais vous dire quelque chose que j'ai encadré. Tout ça. Tous les humains sont injustes. Parce que là, c'est facile. Parce que ils sont, c'est toi ça, hein? C'est moi, ok, pas de problème pour moi, mais c'est toi aussi. Parce qu'ils sont fondamentalement égoïstes et égocentriques. Je vais t'apprendre une nouvelle peut-être, si tu ne le savais pas. Mais je le dis pour moi, de toute façon, moi c'est pas un problème, je le sais. Tu es profondément égoïste et égocentrique. Vous savez ça ? C'est la Bible qui le dit, hein. Si vous voulez, alors après je vais vous bassiner des tartines et perdre des culs pour vous le prouver, si vous voulez. Parce que, donc tous les humains, on parle des humains, ils s'aiment davantage qu'ils n'aiment Dieu. Tu savais ça ? On s'aime davantage qu'on aime Dieu. Vieil homme. Dès l'enfance, l'homme prend la place de Dieu et cherche son propre avantage. Venez, Brigitte demande l'autorisation à ta chef d'accompagner quelqu'un qui n'est pas convaincu, de venir observer les enfants, d'accord, avant même qu'ils soient à la maternelle. Et vous verrez si ce n'est pas vrai, s'ils ne cherchent pas leur propre avantage. Dès l'enfance, l'homme prend la place de Dieu. Parfois, l'homme peut paraître bon, mais il ne garde pas la volonté de Dieu dans son cœur. Il préfère suivre sa propre volonté, sa propre justice. Et d'ailleurs même, j'ajouterai ceci, il y a beaucoup de choses qu'on fait pour se justifier devant Dieu. Beaucoup de choses, on les fait pour se justifier devant Dieu. Et quand on les a faites, on est beaucoup plus à l'aise quand on s'approche de Dieu pour prier, quand on s'approche de Dieu pour le louer. Et ça, c'est pas normal. Parce que si on doit s'approcher de Dieu avec cette liberté, avec cette assurance, c'est parce que il a payé le prix, lui, mais moi, je ne mérite rien. Quand tu as fait quelque chose, quand le serviteur, et j'aurais bien voulu lire ça aussi, mais bon, le temps, hein, parce que je sais bien qu'en plus, on approche de Noël, tout ça, vous avez des poulets, des dindes et tout ça, et des trucs en tête. Mais quand on s'approche de Dieu avec assurance, c'est parce qu'il a ouvert la porte, lui, du lieu très saint. C'est tout. C'est tout. Dieu ne me doit rien. Il n'y a rien que je puisse ajouter en servant qui m'ouvre un peu plus la porte et l'accès à Dieu. Rien. Ça n'a rien à voir. Tout ce que je fais, serviteur inutile. Cette parabole dit, je ne vais pas la lire, hein, parce que voilà, on pourrait, mais vous la connaissez. Le serviteur, il a tout fait. Il a servi, il a travaillé. Et même après, il sert encore à manger à son maître, etc.
Est-ce que le maître doit le remercier? Non. Pas de merci. Serviteur inutile, tu as fait ce que tu devais faire. Et c'est bien ça. Alors, Dieu est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Et tout ce qu'on veut, ça, c'est autre chose. Et Dieu, oh, il est vraiment bon. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce que Dieu fait, parce qu'il est bon. Mais en attendant, la réalité, c'est ça. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Tout ce que je fais, je ne mérite rien. Je ne mérite ni merci, ni récompense, ni quoi que ce soit. Et si Dieu même m'honore pour ce que j'ai fait, c'est son problème à lui parce qu'il est bon. Mais il n'y a rien, donc je répète, il n'y a rien que je fais et que je peux faire qui va m'ouvrir un peu plus l'accès à la présence de Dieu. Je sers Dieu parce que je l'aime. Je sers Dieu parce que je lui ai donné ma vie. Je sers Dieu parce que je lui appartiens. Et donc, voilà, peut-être j'afficherai un autre jour ce petit texte-là. Je voudrais vous lire encore un autre petit texte, court, un verset. Jérémie 17, 9. Alors, j'ai pêché un peu, il y a tellement de versions. Oh, c'est riche. Je dis, waouh, c'est vraiment... voilà. Et est-ce que tu es un humain? Es-tu un humain? Répondez-moi, ce n'est pas un piège. Êtes-vous humain? Moi, je suis un humain, d'accord? Parce qu'on parle de l'homme, mais c'est l'humain. Êtes-vous des humains? Oui. Êtes-vous déjà semblable à des anges parce que vous avez quitté votre corps? Non. Est-ce que vous avez encore à lutter contre votre ancienne nature? Oui. D'accord, même s'il y a la victoire, et patati patata, on sait bien. D'accord? Avez-vous encore des tentations? Oui. Vos tentations viennent d'où? De vos corps, de vos cœurs, pardon, de votre chair, de votre ancienne nature, pas de celle d'un autre. Oui. Bon, nous sommes... Ok, vous êtes dans les conditions. Tu peux afficher le verset. Ce verset dit, le cœur de l'homme... Ou certains ne disent même pas, mais dans d'autres versions, il le dira. Parce que quand on parle du cœur, il sera celui de Dieu, c'est le tien, c'est le mien. Donc tu es dedans. Donc tu es concerné. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Oh, mais comment c'est incurable? Oui, mais nous avons la grâce. Il est incurable. Personne ne change. Pasteur qui dit ça? Oui. Ta vieille nature ne changera jamais. La nouvelle doit prendre dessus. C'est différent. Et elle doit mourir. Elle doit mourir, pas changer. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Le bonhomme contre qui tu dois lutter, c'est ça. Il faut que tu le connaisses. Je voudrais que tu le connaisses aujourd'hui. Ce bonhomme contre qui tu dois lutter, c'est ça. C'est quelqu'un qui a le cœur tortueux. Plus que toute autre chose qui puisse exister. Et c'est incurable. Qui pourrait le connaître? Qui pourrait le connaître? Et Dieu dit ceci. Moi, au verset suivant, l'Éternel. Moi, l'Éternel. Moi, dit Dieu, j'éprouve les cœurs. Dire, je les pèse. J'éprouve les cœurs. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Pour rendre à chacun selon ses voies. Pour rendre à chacun selon, pourrait-on dire, ses motivations, selon le fruit de ses œuvres. Dans Parole de vie, il dit, la traduction dit ceci, le cœur humain est plus trompeur que tout. Ton cœur, ton vieil homme là, son cœur est traduction Martin, le cœur est rusé et désespérément malin. C'est ça, oui. Mais c'est vrai, c'est ce que tu es. Ton vieil homme, ça va? Vous avez compris, hein? Désespérément malin par-dessus toute autre chose. Osterwal, le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin, encore une fois. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai à vous dire. Vous devez premièrement, savoir ça, et deuxièmement, l'accepter. Enfin, l'accepter, non. Vous comprenez quand je dis l'accepter, le savoir. Tu dois connaître ton ennemi. Ce n'est pas toujours le diable. Il a bon dos, lui. Mais il n'est pas partout. Peut-être que des fois, même, il est fatigué, je n'en sais rien. Mais bon, ouais, soit. Mais tu as un ennemi, c'est ton vieil homme. Et tu dois le connaître. Quand je dis que tu dois accepter ça, tu dois accepter qui tu es dans le sens que si tu ne l'acceptes pas, Dieu ne pourra pas sonder ton cœur. Accepte ça pour que Dieu puisse sonder ton cœur. Et lui laisser montrer, parce que c'est de ça que je parle, tes motivations profondes. Parce qu'elles ne sont pas toujours bonnes. Elles sont rarement parfaites. La vieille nature prend très rapidement le dessus. L'orgueil, la vanité et toutes sortes de choses prennent rapidement le dessus. Ne croyez pas que vous êtes juste, que vous êtes bon, Dieu seul est bon. Et nous avons été rachetés. Une jeune femme donnait ce témoignage. Alors, ça parle de louanges, et bon voilà, ça tombe comme ça. J'ai lu ce témoignage, j'en ai pas lu un autre. Hein? D'accord? Alors voilà, ça tombe comme ça. Vous avez compris pourquoi je dis ça. Il n'y a pas d'assignation et je ne vise rien de spécial là-dedans. Une jeune femme donne son témoignage. C'est une jeune pianiste. Encore jeune d'ailleurs, je ne sais plus son nom. Et elle était dans une petite église ou dans quelques petites églises où elle jouait. Donc elle jouait, elle aimait bien ça, elle faisait ça, elle aimait bien. Et puis elle arrive dans une grande église un jour. Bon, ben voilà, elle rentre dans une grande église et elle dit au pasteur, je suis pianiste et j'aime. Enfin, le pasteur qui s'occupe, enfin là, il parle comme ça, le pasteur qui s'occupe de la louange, etc. Elle dit, je suis pianiste et j'aime bien accompagner les cantiques. Annonçais-je au pasteur, je lui truc responsable de la musique. Mais les semaines et les mois se sont écoulés. Et je n'ai jamais été sollicité, dit-elle, à jouer. Il y avait d'autres pianistes, évidemment. On n'avait pas besoin de moi dans l'équipe. J'étais misérable. Certes, il y avait d'autres moyens de servir le Seigneur dans cette grande église. Ce ne sont pas les besoins qui manquent. Et puis, on lui dit ceci. Nous avons gravement besoin d'une monitrice dans les classes des petits, etc. Enfin, je passe un petit peu les détails de ce témoignage. Et puis, il risque de s'écrouler, d'ailleurs, s'il n'y a pas de renfort, me dit un autre responsable. Donc, j'y suis allé et j'ai beaucoup apprécié ce ministère. Mais, pendant tout ce temps, le ministère de la musique me manquait énormément. Et puis, elle dit ceci. Quand j'en ai parlé au Seigneur, il a sondé mon cœur. On a lu ce verset. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Et donc, ça c'est moi qui cite le verset. Elle dit, quand j'en ai parlé au Seigneur, il a sondé mon cœur. Et là, je me suis rendu compte de ce qui me manquait le plus. C'était des commentaires auxquels je m'étais habitué auparavant dans les petites églises. Qu'est-ce que tu joues bien? Que ferions-nous sans toi au piano? J'aime tellement t'entendre jouer. Et là, elle confesse, elle dit, j'ai dû m'humilier devant le Seigneur. Waouh! Et puis elle joue maintenant, vous savez, c'est pas... Et Dieu n'est pas... hein? Mais des fois, il a des choses à nous montrer. Alors je fais le parallèle avec rien ni personne. Hein? Ça va? C'est le témoignage que j'ai lu. Mais Dieu sonde. Il faut que tu laisses Dieu sonder tes reins et tes pensées. Et... J'avais plusieurs versets, mais le temps est passé. Je ne vais pas le faire maintenant. Comment évaluer? On verra ça une autre fois. Comment évaluer ma motivation dans l'Église? Eh bien, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que je fais tout pour Dieu? Est-ce que je fais en mon propre nom? Ou est-ce que j'essaye d'accumuler, comme je l'ai déjà dit une fois, peut-être j'essaye d'accumuler des médailles dans un tiroir? Qu'un jour quelqu'un jettera. Et j'en ai déjà parlé de ça. Et il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, mais on les verra une autre fois. En tout cas, en conclusion, je voudrais dire ceci. Qu'est-ce qui te manque le plus dans ta vie? te manque vraiment? Est-ce de te sentir utile? Parce que ça, c'est pas... Ça peut paraître légitime, mais ce n'est pas la motivation que Dieu cherche. Qu'est-ce qui te manque? Parce que nous sommes des serviteurs inutiles, de toute façon, ça ne veut pas dire que nous ne devons rien faire, ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui te manque? Peut-être ne te sens-tu pas assez digne de Dieu. Peut-être tu aurais besoin de telle ou telle chose pour te sentir vraiment à la hauteur de ce que Dieu attend de toi. Ce n'est pas une bonne motivation. As-tu besoin de te sentir utile pour Dieu? Encore une fois, ce n'est pas une bonne motivation. Est-ce que tu as oublié le but? Et Jérémie en a parlé. Le but n'est pas l'épanouissement personnel. Même s'il y a de grandes joies et même rémunérations à servir Dieu. Celui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, c'est dans Éphésiens 4, verset 11, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants, il l'a fait pour que ceux qui lui appartiennent soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de quoi? De la construction du corps du Christ. Je n'ai pas dit que il n'y avait rien à faire dans l'Église. Je n'ai pas dit que, alors que c'est tout à fait le contraire, qu'il ne faut pas qu'on commence à travailler, à savoir qui fait quoi, etc., etc. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit on va vous punir et vous faire lamentablement attendre juste pour vous faire le faire, juste pour le plaisir de vous faire de vous faire languir. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit ce que j'ai dit. J'ai dit ce que j'ai dit. Nous approfondirons encore d'autres fois, parce qu'il est important de parler de l'autorité dans l'Église. Il est important de parler de la jalousie, parce qu'évidemment, ici, c'est pas pour Warem, évidemment. Ben non, parce que la jalousie, ici, il n'y en a pas. C'est une église où il y a beaucoup d'amour. Mais au moins, comme ça, vous pourrez exhorter les autres, dans les autres églises, etc. Parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on n'aime pas. Hein. Tout le monde dira, ah, moi, ça, la jalousie, j'ai horreur de ça. Et le deuxième truc, c'est l'hypocrisie. Mais vous êtes tous hypocrites et jaloux. Y compris moi, nous sommes tous visités par ça. Le tout, c'est de ne pas céder à la tentation. Il faudra en parler. Parce que je m'aperçois que même ici, j'ai été étonné, vous savez, parce que je suis un peu bisounours aussi, vous savez bien que j'aime bien les bisounours. J'ai été étonné de remarquer que, ah ben ouais, tiens, il y a de la jalousie dans cette église. Mais moi, je ne savais pas, je ne m'en rendais pas compte. Oui, il y en a. Il faudra en parler. Il faudra parler aussi de la différence entre l'appel de Dieu, entre le feu que Dieu met en nous pour le servir et le moment où il dit c'est maintenant que tu dois faire ça ou tu dois faire ça. Il faudra parler de toutes ces choses-là. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Et puis voilà. Amen.